Bonjour. Elle était l'un des visages de la nouvelle vague, l'égérie de Jean-Luc Godard, la compagne de Pierrot le Fou. L'actrice Anna Karina est morte, elle avait aussi chanté avec Gainsbourg, elle avait 79 ans. Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, plus que jamais sur la sellette. Dans sa nouvelle déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique apparaissent 10 mandats supplémentaires. Il est disqualifié, selon Marine Le Pen. Son erreur ne l'empêche pas de continuer sa mission, répond le gouvernement. Sur le fond du dossier, la CFDT monte encore le ton. Que le gouvernement retire son âge d'équilibre, un point, c'est tout, déclare Laurent Berger. Dans ce journal également, la montagne de la COP25 qui accouche comme prévu d'une souris à Madrid. Une soirée de violence à Beyrouth où les consultations sur le futur Premier ministre doivent commencer demain. Le bilan mitigé du plan vélo à Paris, un plan engagé depuis bientôt 5 ans. C'est le droit de suite de ce dimanche 13h. Et puis l'Olympique lyonnais qui fête une icône du foot français et surtout lyonnais, Bernard Lacombe.
France Inter.
Sous le soleil, exactement, c'était son titre le plus connu. C'était en 67, une chanson de Gainsbourg tirée de la comédie musicale Anna, comme son prénom. Anna Karina est morte ce matin d'un cancer, elle avait 79 ans. Chanteuse, mais surtout actrice, elle restera pour tous les cinéphiles l'ingénue libertaire de Pierrot le Fou, le film de Godard, aux côtés de Belmondo, et dans lequel elle répète « Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ». Les cheveux très noirs, les yeux très bleus, Anna Karina fut surtout l'égérie de Jean-Luc Godard, qui fut un temps son compagnon. Bref, c'est une page de la nouvelle vague qui se tourne, Corinne Pelletier.
Exactement, avec ses grands yeux bleus et son visage pâle, elle était l'essence même des années 60, immortalisée dans une photo qui avait fait l'année dernière encore le tour du monde, ce baiser échangé avec Jean-Paul Belmondo à la portière d'une voiture dans Pierrot le Fou en 65, l'une des plus belles affiches jamais illustrées pour le Festival de Cannes. L'image mythique d'une femme libre qui aura inspiré les plus grands, vous l'avez dit, de Serge Gainsbourg à Jean-Luc Godard, plus qu'une comédienne, plus qu'une chanteuse, une muse, Anna Karina au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang en mars 2018, se souvenait de ce fantastique parcours.
C'est quand même des gens qui m'ont fait des énormes cadeaux. Avec Jean-Luc, j'ai eu de la chance d'interpréter des rôles extrêmement différents, étant des très beaux films, magnifiques. Et avec Gainsbourg aussi, j'ai eu de la chance de faire une comédie musicale. C'était mon rêve depuis toute petite. Et que j'adorais d'ailleurs toutes les comédies musicales de Judy Garland. C'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses.
Anna Karina qui était arrivée à Paris du Danemark, encore mineure, sous le nom d'Anne-Karine Bayer, rebaptisée par Coco Chanel. Ce sera l'une des premières à prendre conscience de son potentiel. Elle ne l'avait pas oublié.
Je crois que c'est en 59. Et voilà, j'arrive dans le studio Elle Magazine, là où il y a Hélène Lazareff, qui est la directrice du journal Elle et du magazine. Il y a une autre dame juste à côté qui était sa copine et qui avec un grand chapeau comme ça. Et puis elle arrive dans la salle de maquillage. Elle me dit mais what's your name little girl? Comment tu t'appelles petite fille? Et voilà en anglais. Et je dis mon vrai nom qui est Anne Karine Bayer. Elle fait, j'ai entendu dire que tu veux être actrice. J'ai dit, oui madame. Elle m'a dit, mais dans ce cas-là, tu t'appelleras pas Anne-Karine Bayer. Elle dit, tu t'appelleras Anna Karina. Sur un ton militaire.
C'était qui cette femme?
C'était Coco Chanel.
Et voilà, la mode avant le cinéma et Jean-Luc Godard, le premier à la repérer dans une publicité, à lui offrir un rôle dans son film À bout de souffle, qu'elle commencera par décliner avant d'accepter le suivant, Petit soldat en 1960 sur la guerre d'Algérie. Le début à ce moment-là d'une idylle et d'une véritable complicité de cinéma, l'essence même de la nouvelle vague à travers 7 films. Par exemple, Une femme est une femme, pour lequel elle avait obtenu le prix de la meilleure interprétation à Berlin en 62.
Émile? Je pense à quelque chose tout à coup. Tu m'emmerdes !
On peut citer aussi Vivre sa vie, Pierrot le Fou. Bien sûr, Anna Karina restera dans les mémoires des cinéphiles. Donc cette ingénue libertaire qui répète à l'envi qu'elle ne sait pas quoi faire, vous l'avez dit. Mais derrière cette fragilité, il y avait aussi une femme forte et libre. La première comédienne, par exemple, à passer à la réalisation en 1973 avec Vivre ensemble, une histoire d'amour sur fond de drogue et d'alcool. Le portrait d'une époque, le portrait de sa jeunesse.
Anna Karina, sa vie, son œuvre à consulter bien sûr sur franceinter.fr. La deuxième partie de soirée lui sera entièrement consacrée sur France Inter de 22h à minuit, rediffusion de ses interventions dans les émissions Boomerang et Éclectique. Elle y raconte sa rencontre avec Godard, ses tournages avec Visconti, Fassbinder, Benoît Jacquot, sa carrière de chanteuse également, une spéciale animée donc par Laurent Delmas.
L'un des pays les plus récalcitrants aux mesures contre le changement climatique.
À Madrid, que pouvaient espérer les négociateurs de la COP25 en prolongeant les débats de plus de 24 heures? Les associations n'espéraient plus grand-chose et elles n'ont pas été déçues. C'est un accord à minima qui a été conclu, qui renvoie les grandes décisions à la COP26 l'année prochaine à Glasgow. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
L'un des pays les plus récalcitrants aux mesures contre le changement climatique a porté la contradiction jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment, le principe même d'un accord a été menacé. Jusque dans l'assemblée plénière de clôture, pourtant maintes fois reportée, le Brésil, réclamant la parole dans une espèce de ping-pong avec la présidente de la COP et les autres délégations, a demandé la suppression de deux paragraphes, l'un sur l'ouverture d'un dialogue sur les océans, l'autre sur l'usage des terres. Et ce n'est qu'après des va-et-vient avec une dizaine d'autres pays que le Brésil a reculé. Le plus important de cette COP était d'appeler les États à déposer de nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2020. C'est chose faite, mais les mots sont diplomatiques. Le délai jusqu'au deuxième semestre est long et risque de retarder le processus. Une formule qui ne convainc pas les pays les plus volontaristes, ni les ONG environnementalistes. Quant à l'article 6 sur l'organisation des marchés carbone, il n'est pas encore complété. La présidence chilienne, très critiquée, sauve les meubles, mais cette COP restera l'une des plus laborieuses et des moins ambitieuses. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
Réaction à l'instant de Greenpeace qui dénonce les lobbies des industries et des énergies sales pour lesquelles tout accord ambitieux sur le climat est un danger pour leur profit. Greenpeace qui met aussi en cause l'attitude de la France absente des débats au moment où se joue l'avenir des accords de Paris. On attendra mardi sur la réforme des retraites et les grèves. Les dés sont jetés au moins jusqu'au milieu de la semaine. Après-demain, le 17, c'est une nouvelle mobilisation qui s'annonce avec le renfort des syndicats réformistes, notamment de la CFDT, dont le secrétaire général Laurent Berger prévient ce matin dans le JDD, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout. Laurent Berger qui assure ne pas vouloir de blocage à Noël. Sur ce point, le Premier ministre, lui, prévient dans le Parisien dimanche que chacun doit prendre ses responsabilités, que les Français n'accepterait pas d'être privé de ce moment de Noël. On n'en est pas là. Ce dimanche, la situation reste inchangée. Elle s'est même aggravée dans les transports à Paris. Dimanche oblige. Toutes les lignes de métro sont fermées, à l'exception des lignes automatiques sur le réseau SNCF. Toujours un TGV sur 4, un TER sur 3. Ce qui complique encore un peu les choses ces derniers jours, c'est qu'au débat de fond sur les retraites est venu s'ajouter le cas Delevoye, le haut commissaire aux retraites, fragilisé par ses omissions en chaîne dans les déclarations de ses différentes activités. Dans les rectifications qu'il a faites auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique vendredi soir, révélées par Le Monde, apparaissent pas moins de 10 mandats supplémentaires, soit 13 au total, dont 11 activités bénévoles. Difficile pour l'association Anticor d'évoquer la bonne foi du haut-commissaire, comme l'a fait Édouard Philippe. C'est ce que pense aussi la France Insoumise, qui réclame sa démission. Ou encore Marine Le Pen, selon laquelle Jean-Paul Delevoye n'est plus qualifié désormais pour s'occuper du dossier des retraites. La présidente du Rassemblement National ce matin sur CNews.
S'il y a bien un sujet sur lequel, permettez-moi, il ne fallait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, c'est bien dans ce sujet de la réforme des retraites. Or, c'est précisément sur ce sujet-là qu'on découvre qu'il y a un conflit d'intérêts dans le CV de M. Delevoye. On apprend qu'en fait, il a oublié pas un de 10 mandats. Je pense que la suspicion de conflit d'intérêts à l'égard de M. Delevoye le disqualifie totalement pour continuer à incarner cette discussion sur l'avenir des Français, l'avenir de leur retraite.
René Dosière, le président de l'Observatoire de l'éthique publique, pointe lui aussi du doigt la double rémunération du haut-commissaire et d'une entreprise, ce qui doit au minimum être déclaré et autorisé par la hiérarchie, dit-il. Alors c'est vrai qu'il a fait une erreur, reconnaît le ministre du Logement, Julien de Normandie, ce qui ne le disqualifie pas pour autant, dit-il, sur la réforme des retraites.
Il a fait une erreur, mais je crois que ce qui est important quand on fait une erreur, c'est de le reconnaître, ce qu'il a fait, et puis de les corriger, ce qu'il a fait également immédiatement. Je doute pas du tout de sa bonne foi. Oui, après, il faut voir de quoi on parle. Ces mandats, ce sont quoi? Ce sont des postes d'administrateurs dans des fondations. Dans des fondations comme des orchestres, dans des fondations comme la fondation SNCF. C'est la fondation caritative du groupe SNCF. Et puis, le mandat où il y a rémunération, celui-ci, il l'avait déclaré. En revanche, A posteriori, il a été indiqué que ça n'était pas compatible. Dès qu'il l'a su, il a démissionné et il s'est engagé à rembourser les sommes.
Julien de Normandie ce matin sur France Info. Alors on l'a vu depuis le 5 décembre, pour revenir à la grève dans les transports, en particulier à Paris, on l'a vu, les Parisiens ont dû trouver de nouvelles formes de mobilité, covoiturage ou bicyclette. L'utilisation des Vélib notamment a fortement augmenté, plus 71% par rapport au mois de novembre, 130 000 courses par jour dans la capitale. La preuve qu'il y a un vrai besoin, et ça tombe bien, la ville de Paris avait lancé en 2015 un plan vélo de 5 ans dont on peut maintenant dresser un bilan. C'est le droit de suite de ce journal dans un instant, mais d'abord retour sur ce vote du Conseil de Paris en avril 2015, 150 millions d'euros pour entre autres développer les pistes cyclables, un sujet signé à l'époque de Camille Regache.
Pédaler dans la capitale, c'est possible à condition d'accepter deux inconvénients majeurs: trouver ou garer son vélo et zigzaguer dans la circulation lorsqu'il n'y a pas de pistes cyclables. Deux points noirs que compte résoudre ce plan en doublant le nombre de kilomètres de pistes pour atteindre 1400 km et en créant des boxes de stockage sécurisés. Voitures et vélos vont encore se côtoyer, mais pour Christophe Nadjowski, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, la cohabitation est possible sans danger, malgré quelques 400 accidents par an.
Il faut tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle faire du vélo à Paris serait dangereux. Nous allons à Paris généraliser la vitesse à 30 km/h sur les axes secondaires. Si vous limitez le différentiel de vitesse entre les cyclistes et la circulation automobile, c'est aussi quelque chose qui permet de sécuriser les déplacements à vélo.
Une mesure qui n'enchante pas les automobilistes, mais elle pourrait, qui sait, les convaincre de troquer leur volant contre un guidon.
Invité de ce droit de suite, Charles Maguin, président de l'association Paris en Selle, bonjour.
Bonjour.
Alors tout le monde souligne aujourd'hui un vrai progrès enregistré à Paris ces dernières années, beaucoup plus de pistes cyclables en tout cas. C'est votre point de vue, on est sur la bonne, sur le bon chemin, disons?
Oui, alors clairement sur la question des pistes cyclables, il y a eu un très grand progrès. Le réseau express vélo qui a été mis en place, alors on connaît notamment la rue de Rivoli hein, qui est un peu emblématique, mais aussi les Champs-Élysées, le boulevard de Sébastopol, les quais de la rive gauche de la Seine, c'est vraiment des choses qui marquent le paysage urbain désormais, avec beaucoup de gens dont la mobilité a été transformée parce qu'ils peuvent désormais se déplacer à vélo confortablement et en sécurité grâce à ces grands axes. Donc sur la question des pistes cyclables, même si nous, en tant qu'association qui suivons, on a mis en place un observatoire du plan vélo, on constate que par rapport à ce qui était prévu, on va être plutôt autour de 50% et pas 100%. Ce qui a été fait, et c'est quand même déjà très très positif, ça a été fait de bonne qualité, et ça se voit dans les chiffres qui ont été mentionnés dans le journal, avec une explosion véritablement de la pratique qui se voit à l'œil nu.
Mais je sens qu'il y a un mais.
Il y a un mais, effectivement. Alors, vous voyez, Christophe Nadjowski, en 2015, parlait de stationnement, par exemple, pour le vélo.
L'adjoint au transport.
Et ces fameuses boxes, on ne les a pas encore vues venir. Il est toujours très difficile de stationner dans les gares parisiennes. Des vélostations étaient prévues à Montparnasse et à Gare de Lyon, et on n'en a pas encore vu la couleur. Et puis aujourd'hui, en période de grève, on voit bien toutes ces personnes qui galèrent pour stationner leur vélo près de leur bureau ou de leur habitation. Il a également parlé de passer Paris à 30. Alors là, il y a quelque chose d'important à dire aux auditeurs, c'est que peut-être que cette promesse-là, elle va être en partie tenue. Hein. Ils ont vu des panneaux à 30 un peu partout. Mais est-ce que pour autant la promesse d'apaisement qui était derrière, elle est réussie? Je crois pas qu'on y soit, parce qu'on reste encore dans les quartiers avec trop de trafic de transit, Waze, en gros. Et donc à la terrasse du café ou pour traverser la rue avec sa poussette, même dans les petites rues de quartier, ça reste encore inconfortable.
Donc il y a encore du travail à faire. Est-ce que ce sera c'est l'un des grands enjeux des prochaines municipales, votre point de vue? À Paris et ailleurs, d'ailleurs.
Oui, la mobilité est devenue vraiment un enjeu très fort pour les Parisiens et donc pour ces municipales. Nous, dans le cadre de cette campagne, en tant qu'association, on a lancé une campagne « Vivez Paris, votez vélo ». Il nous semble que c'est, à l'heure où les routes sont saturées, les transports en commun sont saturés, la seule mobilité qui a encore une chance de croître et de décoincer la capitale. Je crois que la force, quand même, de cette mandature, c'est d'avoir fait la démonstration que c'était possible et que ça marchait. Les chiffres, encore une fois, de fréquentation des pistes cyclables montrent que quand on offre aux personnes l'itinéraire sécurisé, bah, elles changent leur mobilité, elles adoptent le vélo. Mais par contre, on est vraiment au milieu du gué parce qu'il reste encore beaucoup d'endroits à Paris qui sont très hostiles au vélo. On peut aussi mentionner les grandes places, la Concorde, voilà, les grands carrefours. Et malgré les projets de réaménagement de la ville pendant cette mandature sur les grandes places, il y a encore du travail dans
ces
intersections-là.
Merci beaucoup. C'est la même problématique d'ailleurs dans toutes les grandes métropoles. Merci beaucoup. Charles Maguin, président de l'association Paris en selle. Et puis on parlait de la grève SNCF tout à l'heure, d'une grève à l'autre, hein, à Radio France également. Le conflit continue contre le plan d'économie de la direction. Un nouveau préavis de plusieurs syndicats a été déposé pour le 19. Abandonner le projet serait irresponsable, explique dans le JDD la PDGR de Radio France, Sybille Veil. L'immobilisme n'est pas à l'ordre du jour, dit-elle, mais beaucoup de sujets sont sur la table, notamment les conditions d'accompagnement des départs volontaires.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
À l'étranger, au Liban, des dizaines de blessés dans la soirée d'hier à Beyrouth, la soirée la plus violente depuis longtemps, depuis le début du mouvement de contestation. Les forces de sécurité ont tiré des balles en caoutchouc. Demain doivent débuter les consultations parlementaires visant à désigner un nouveau Premier ministre. Aurélien Colli à Beyrouth.
90 personnes blessées selon la défense civile libanaise. Bilan d'un samedi de chaos dans le centre-ville de Beyrouth. Dans la journée et dans la soirée, des hommes masqués ont attaqué le campement de la contestation aux abords du Parlement. Des opposants à cette révolte proche des partis chiites, Hezbollah et Hamal. Si les forces de l'ordre se sont d'abord interposées en noyant le centre-ville dans le gaz lacrymogène, la répression s'est tournée plus tard vers quelques 200 manifestants pacifiques qui voulaient réinvestir tout simplement le campement de la contestation. Charge sans ménagement, sans distinction à la matraque et au gaz lacrymogène, totalement disproportionnée, souligne ce matin un journal libanais qui estime que l'objectif réel était de dégager les manifestants du centre-ville purement et simplement. Pour un ancien ministre qui dénonce depuis longtemps la dérive du système politique libanais, il y a désormais un consensus des partis traditionnels pour faire taire la rue et tenter de sauver leur peau, alors que débute demain la procédure de nomination d'un nouveau gouvernement, gouvernement que les contestataires réclament neutre, apolitique, sans représentant des partis hérités de la guerre civile, qui ont mis, selon eux, le pays à genoux. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Pas de référendum pour les Écossais. Le gouvernement britannique est très clair. Il ne donnera pas son accord à l'organisation d'une consultation sur l'indépendance de l'Écosse. Au lendemain des législatives remportées cette semaine en Écosse par le parti nationaliste opposé au Brexit, la première ministre Nicola Sturgeon avait relancé le projet. Un projet qui nécessite l'accord du gouvernement de Londres. Le PSG, champion d'automne. Cette fois, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien arriver aux Parisiens qui ont 4 points d'avance sur Marseille avant même de jouer ce soir à Saint-Étienne. L'OM qui n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout hier soir à Metz. Cet après-midi, pendant ce temps, les Lyonnais vont essayer de se rapprocher du podium en accueillant Rennes au Groupama Stadium. L'OL qui s'apprête surtout à fêter l'un de ses plus grands joueurs, Bernard Lacombe, 67 ans, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sauf à Lyon, où l'ex-international est une véritable icône du football, Cédric Guillou.
On a retrouvé Bernard Lacombe dans le quartier de Gerland, à Lyon, à l'entrée de l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais.
C'est ma deuxième maison. Pourquoi ? Parce que moi, je venais quand j'avais 10 ans avec mon papa ici. Et 7 ans après, j'ai eu la chance de jouer mon premier match.
C'était le 7 décembre 1969. Bernard Lacombe inscrira d'ailleurs ce soir-là le premier de ses 149 buts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Son ami et ancien footballeur, Alain Giresse.
Ah, celui-là, c'est un fouteux. C'est la sensation, la perception qu'on a du jeu, de la compréhension du déplacement, de là où il veut le ballon, de quand il veut le ballon. Et donc, Nanar, il regorgeait de ça.
Après sa carrière de joueur, Bernard Lacombe ne s'est pas arrêté là, à l'OL. Directeur sportif, entraîneur, recruteur, puis enfin conseiller de Jean-Michel Aulas, le président.
Il incarne une culture de club qui est en train de se perdre un petit peu.
Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, spécialiste de l'Olympique Lyonnais.
Il n'y a pas de mémoire vivante et lui a été cette mémoire vivante tout en étant un dirigeant essentiel. On se rend compte qu'il a passé une vie ici.
Célébré cet après-midi au Parc OL en marge du match Lyon-Rennes en Ligue 1, Bernard Lacombe continuera d'œuvrer pour son club de cœur en tant que président de l'association des anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais.
En bref, Alexis Peintureau en tête au slalom de Coupe du Monde de Val d'Isère. Les écarts étaient même très importants à l'issue de la première manche. Plus de 59 centièmes sur le deuxième, l'Américain bien nommé Winters. Et puis en ski à bosse, Perrine Laffont, toujours impériale. Troisième victoire ce matin en Chine, 3 victoires en trois courses. Enfin, il était le dernier survivant du régime de chasse Normandie-Niémen. Il s'appelait André Perroni. Il est mort en début de semaine à l'âge de 99 ans. C'est le site des Français libres et du ministère de l'Armée qui l'annonce. Le Normandie-Niémen, l'un des plus prestigieux escadrons de l'armée de l'air française, avait combattu des 43 aux côtés de l'armée rouge contre les nazis, constitué de pilotes de chasse et de mécaniciens français volontaires. Il reste une légende en Russie. D'ailleurs, un régiment du même nom, basé à Mont-de-Marsan, aujourd'hui équipé de Rafale, a encore participé aux dernières opérations aériennes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Voilà, hommage à André Perroni.